écrire une nouvelle comédie pour l'occasion, Les Fâcheux. La pièce s'ouvre par un éloge au roi, déclamé par Madeleine Béjart.
Pour voir en ces beaux lieux le plus grand roi du monde, mortel, je viens à vous de ma grotte profonde. Faut-il en sa faveur que la terre ou que l'eau produisent à vos yeux un spectacle nouveau ?
La pièce met en scène un jeune couple empêché de s'aimer par une succession de fâcheux. Molière va une nouvelle fois impressionner les spectateurs, parmi lesquels Louis XIV, en jouant tous les fâcheux, à savoir au moins 5 rôles différents.
Pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça s'oppose à une technique de jeu qui était plutôt dominante au XVIIe siècle, qui était que l'acteur jouait tout le temps le même rôle et cultivait tous les aspects, la gestuelle, la voix, le type de gag du même personnage, et donc il peaufinait constamment de pièce en pièce le même personnage. Et donc il montre son talent d'imitateur, et c'est une chose qu'il va constamment cultiver, hein, puisque dans Amphitryon, Sosie se parle tout seul, dans Les Fourberies de Scapin, c'est le feu d'artifice. Donc on a beaucoup de pièces où Molière va revenir sur cette capacité à jouer. Ah.
Allons, coquin ! Dis-nous, où est ton maître ?
Monsieur, ne me maltraitez point.
Paul, dis-nous où il est !
Paul, hâte-toi !
Dépêche vite !
Tout. Monsieur, doucement.
Si tu ne nous fais trouver ton maître tout à l'heure, nous allons faire pleuvoir sur toi une ondée de coups de bâton.
J'aime mieux souffrir toute chose que de vous découvrir mon maître.
Nous allons t'assommer.
La fête de Vaux-le-Vicomte est un nouveau triomphe pour Molière. En revanche, elle précipite la chute de Fouquet. Le sort du surintendant était scellé depuis un temps déjà par Colbert et Louis XIV. Jugé bien trop puissant, il est bientôt arrêté sur ordre du roi par D'Artagnan. Tous les artistes de Vaux-le-Vicomte sont appelés à désormais consacrer leur génie à la politique culturelle royale.
Et c'est comme ça que, à part La Fontaine, resté fidèle obstinément, tous les autres vont être récupérés. L'agrandissement de Versailles, les premiers travaux de Versailles, ça va être les jardins par le nôtre, ça va être le Vaux, évidemment, qui va pour le premier commencer à agrandir le château. Le Brun, évidemment, qui va devenir non seulement le décorateur de Versailles, mais le premier peintre du roi. Et Molière, qu'est-ce qu'il va être, évidemment, le grand divertisseur de Louis XIV. Mais pour inciter les gens, il faut les récompenser. Et donc, on va pensionner des gens, on va établir un système de gratification. Et évidemment, dans les premiers gratifiés, il y a Père Corneille, désigné comme le plus grand poète du monde, et Molière, excellent auteur comique, etc., etc.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois du mécénat, c'est-à-dire que ça va permettre à ces auteurs d'être publiés, hein, d'être reconnus par le régime. Mais on sait aussi que c'est une manière de commencer à contrôler les publications officielles de la louange du souverain. Et donc il va, notamment par ce système de pension, encourager les poètes à célébrer le roi, célébrer des événements de la monarchie, et donc à contribuer à la grandeur du règne. Ils ne sont pas obligés de produire des œuvres à la gloire du roi, mais très vivement, chaleureusement et concrètement encouragés à le faire.
Toute la terre est triste quand on ne le voit pas. Toute la terre est triste quand on ne le voit pas. Quand on ne le voit pas. Parce que sa mémoire
C'est en ça que Molière, poète satiriste par excellence, n'a jamais égratigné l'image du roi. Il n'y a pas une ligne dans le théâtre de Molière qui soit une remise en cause, même indirecte, même très très distanciée, du principe du monarque absolu de droit divin. La plupart de ses pièces sont marquées par quelque chose qui est de l'ordre de l'exercice de style à l'époque, le compliment au roi, le remerciement au roi, l'apologie du roi dans les fameuses scènes finales du théâtre à machines. C'est un exercice dans lequel Molière excelle tout en ayant une certaine distance.
Remettez-vous, monsieur, d'une alarme si chaude. Nous vivons sous un prince ennemi de la fraude, un prince dont les yeux se font jour dans les cœurs, et que ne peut tromper tout l'art des imposteurs.
Je crois que l'un et l'autre se sont parfaitement utilisés. C'est-à-dire que je pense que Louis XIV a eu besoin de Molière pour les divertissements qui étaient les siens et de ce que ça représentait à la cour. Et Molière a eu besoin du roi pour pouvoir mener sa carrière comme il l'a fait.
Il a un roi qui est lui-même un artiste, d'ailleurs, bon, et qui sait même comment utiliser tout cela pour son pouvoir, mais qui n'aura aucune considération pour l'intérêt de l'artiste. Il n'est qu'intérêt de lui-même. Louis XIV, c'est Narcisse, puissance 1000. Donc il a affaire à ça, il a affaire à une sorte de monstre qui peut, par moment, savoir gratifier un artiste qui lui a donné du plaisir. Donc c'est très compliqué comme relation, je pense. C'est une relation périlleuse, très périlleuse.
Succès à la cour comme à la ville, faveur royale, tout semble sourire à Molière. Est-il conscient alors que sa nouvelle pièce, L'école des femmes, présentée en décembre 1662, va déclencher une violente cabale et que va se constituer contre son théâtre un puissant socle d'ennemis qui n'aura plus de cesse de l'abattre? Il faut dire que L'école des femmes traite d'un sujet certes très en vogue dans les salons, mais potentiellement explosif, celui de l'éducation des filles et du mariage.
Ne résistez pas, madame. Je vous l'ordonne. Madame, dites oui, madame.
Allons, madame. Allons. Allons, madame.
La question de la condition féminine, la question de l'éducation des filles, la question du sentiment amoureux et de la capacité de se réaliser, de réaliser son bonheur dans le mariage, sont un sujet de débat et de controverse dans les salons, qui sont des sociétés animées par des femmes. Donc cette question est dans l'air du temps.
Je pense qu'il est secoué par son époque. Il est parfois au bord d'être fracassé par son époque. Il la voit, il la regarde, elle l'inquiète, elle le fait souffrir. Et il est très courageux. Il est courageux parce qu'il la regarde vraiment et qu'il ose pointer du doigt des phénomènes mortifères. Et inhumain.
Comme souvent chez Molière, l'argument de la pièce tourne autour d'un personnage rendu ridicule par son obsession. Dans L'école des femmes, Arnolphe est obsédé par l'idée d'être cocuffier. Il a pour projet d'épouser sa pupille Agnès, qu'il élève recluse depuis son plus jeune âge et dans l'ignorance la plus crasse, afin de se garantir sa docilité.
Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage. Un d'austère devoir le rang de femme engage. Et vous n'y mentez pas ce que je prétends pour être libertine et prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la barbe, elle a toute puissance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont pas d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne. Et ce que le soldat dans son devoir instruit montre d'obéissance au chef qui le conduit, le valet à son maître, un enfant à son père, à son supérieur, le moindre petit frère, n'approche point encore de la docilité et de l'obéissance et de l'humilité et du profond respect où la femme doit être pour son mari, son chef, son seigneur et son maître.
Il y a une mécanique sociale qui ferme les vannes. de la puissance féminine. Mais c'est la terreur, depuis la nuit des temps, qu'ont certains hommes. Elles ont un désir illimité, elles ont un plaisir illimité, mais cette dimension de puissance, il pose la question de la détresse des hommes face à cette illimité. Mais aujourd'hui encore.
Il vient nous sermonner avec des yeux farouches et jeter nos rubans, notre rouge et nos mouches. Tu sais pas ce que c'est que d'avoir quelqu'un qui n'est pas chez lui, qui rentre dans ta chambre, qui fouille dans tes tiroirs, qui écrase ton rouge à lèvres, qui jette ton maquillage, qui te met un foulard, qui rentre tes mèches de cheveux sous ton foulard d'un doigt sale, brutal. Et qui, au fond, ce type n'est même pas... Qui c'est ?
C'est un grand sujet chez Molière, les femmes.
Mais votre fille doit épouser un mari pour elle. Et n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin.
Mais c'est pour moi que je lui donne ce médecin. Et une fille de bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père.
Et pour toi, je te donne au Seigneur Anselme.
Au Seigneur Anselme ?
Oui, un homme mûr, prudent et sage, qui n'a pas plus de 50 ans. Et dont on vante les grands biens.
Contre un père absolu, que veux-tu que je fasse ?
Ce qu'il faut pour parer une telle menace.
Quoi ?
Lui dire qu'un cœur n'aime point par autrui, que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui, qu'étant celle pour qui se fait toute l'affaire, c'est à vous, non à lui, que le mari doit plaire, et que si son Tartuffe est pour lui si charmant, il le peut épouser sans nul empêchement.
La misogynie, le système familial patriarcal, il le connaît très bien.
Quiconque à son mari veut plaire seulement, ma bru, n'a pas besoin de tant d'ajustements.
C'est un discours misogyne qu'il fait entendre, mais à chaque fois, il prend les femmes à des âges et des milieux et des moments de la vie très différents.
Cela sera, ma fille.
Non !
Si.
Non, vous dis-je.
Si, vous dis-je.
C'est une chose, vous ne me réduirez point.
C'est une chose où je te réduirai.
Je me tuerai plutôt que d'épouser un tel mari.
Tu ne te tueras point et tu l'épouseras. Mais voyez quelle audace, a-t-on jamais vu une fille parler de la sorte à son père ?
Mais a-t-on jamais vu un père marier sa fille de la sorte ?
Un des enjeux dans les années à venir pour les metteurs en scène qui montent Molière, c'est de rendre à Molière ce qu'on lui doit, notamment à l'égard des femmes. Moi, j'ai une tendresse infinie pour le personnage de Célimène, comme pour beaucoup de personnages féminins chez Molière. Célimène, c'est un personnage d'une intelligence. Elle pense plus vite que nous tous réunis. Enfin, c'est extraordinaire l'esprit dont fait preuve Célimène en permanence.
On peut, je crois, louer et blâmer tout. Et chacun a raison suivant l'âge et le goût. Il est une saison pour la galanterie, il en est une aussi propre à la pruderie. On peut par politique en prendre le parti quand de nos jeunes ans l'éclat est amorti. Cela sert à couvrir de fâcheuses disgrâces. Je ne dis pas qu'un jour je ne suive vos traces. L'âge amènera tout. Et ce n'est pas le temps, madame, comme on sait, d'être prude à 20 ans.
C'est en ça où je trouve qu'il faut être très vigilant dans la manière dont on lit aujourd'hui les œuvres de Molière. Parce qu'en fait, c'est des portraits de femmes formidables, extrêmement modernes de ce point de vue. Arsinoé, c'est une femme de pouvoir. C'est une femme qui, elle dit à Alceste, moi je peux vous aider, j'ai des gens, je peux le faire, j'ai du pouvoir. Et elle l'assume. Et en plus, elle lui dit qu'il lui plaît.
Donnez-moi seulement la main jusque chez moi. Là, je vous ferai voir une preuve fidèle de l'infidélité du cœur de votre belle. Et si pour d'autres yeux le vôtre peut brûler, on pourra vous offrir de quoi vous consoler.